Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de Rayon Libre avec mon invité au téléphone. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct. Cette émission est enregistrée le lundi 8 juin à 18h11 pour être précis. Merci d'écouter Cause Commune. Cette semaine, mon vélo, ma petite entreprise. Il y a peu, sur Substack, je vous faisais part de mes constats et interrogations. Je constate que le collège à Paris, à côté de chez moi, est littéralement un parking à patinettes. La patinette, bah, c'est comme une trottinette. Enfin, c'était. La patinette adorable n'existe plus dans le rayon. Elle est remplacée par la trottinette exécrable, évidemment. Elle a changé de nom et donc de statut, probablement en s'électrifiant. En tout cas, devant ce collège, les patinettes sont garées en rang d'oignon. Elles attendent leur propriétaire. Cet objet est-il un concurrent déloyal au vélo? Bah oui, je crois. Pas cher, pas encombrante, pas d'entretien, pas de réglage autorisé à rouler sur le trottoir, interdite même sur la chaussée. Cet objet a des vertus qu'il ne faudrait pas négliger. La patinette est l'objet parfait de la mobilité active, autonome de nos collégiens. Néanmoins, elle détourne nos enfants du vélo. Elle est aussi une solution acceptée et acceptable pour les parents, aucune charge mentale. Et puis l'enfant reste sur le trottoir en plus, une bride relâchée à moindre frousse pour les parents. L'ensemble du monde du vélo n'aurait-il pas intérêt à s'interroger sur ce détournement, ce concurrent? Et le monde du vélo ne devrait-il pas se poser la question du comment faire pour que l'étape d'après la patinette soit le vélo? Il y aurait selon moi une solution formidable, elle a accompagné mes enfants. Cette solution s'appelle le vélo en libre service, le Vélib à Paris. Sauf que le Vélib, il n'est autorisé qu'à partir de 14 ans. Comment se fait-il que le législateur décide d'un côté qu'à partir de 12 ans, les enfants sont suffisamment grands et matures pour avoir le droit de rouler sans casque quand ils pédalent, et de l'autre côté, imposer aux opérateurs de délégation de services publics, j'imagine que c'est imposé ainsi, qu'en dessous de 14 ans, un ado, eh ben, il n'a pas le droit de pédaler sur les vélos. Nous avons un programme qui s'appelle le SRAV, qui a comme objectif que tout enfant à son entrée au collège soit capable, parce qu'il a appris, à aller à vélo au collège. Pourquoi donc interdisons-nous à nos enfants qui rentrent au collège le droit d'utiliser un Vélib? Et j'ai vérifié rapidement, tous les opérateurs qui ont cette délégation de service public pour opérer les flottes de vélos publics ont cette limite d'âge, qui est donc à 14 ans. C'est selon moi un non-sens, c'est selon moi même un combat qui devrait être mené par les porte-paroles du vélo auprès des pouvoirs publics. Avec mes trois enfants, quand ils n'avaient pas 14 ans, on aurait bien aimé qu'ils aient le droit d'utiliser ce service. Mon invité du jour est en âge de pédaler librement sur un Vélib depuis au moins une dizaine d'années, ou un vélo, puisqu'elle habite et vit et travaille à Lyon. Je n'ai pas encore décidé quelle Océane Maé je reçois. Est-ce que c'est l'étudiante en ingénierie mécanique? Est-ce que c'est l'alternante qui travaille chez Ultima? Est-ce que c'est la cycliste professionnelle, elle qui vient d'offrir à son équipe, ma petite entreprise, sa première victoire dans une course labellisée UCI? On a 30 minutes pour déterminer qui est donc Océane. C'est parti pour un rayon libre qui entreprend. Bonjour Océane, merci d'être avec nous au micro aujourd'hui.
Bonjour Jérôme, et bien c'est avec grand plaisir.
Eh ben, je suis ravi aussi de vous recevoir. Océane, je vous rencontre lors d'un événement presse qui est organisé par Ultima, alors que la marque présentait sa collab avec Eden Park. Combien de casquettes, combien de gapettes avez-vous?
Oui, c'est vrai que je suis assez... je suis bien occupée et j'ai en effet beaucoup de casquettes. Je suis coureur cycliste professionnel, donc pour l'équipe ma petite entreprise, et puis je suis stagiaire dans l'entreprise Ultima Mobility. Donc, on va dire deux principales.
Et vous êtes aussi étudiante?
Je suis aussi étudiante, mais je le range un petit peu dans la casquette stage en entreprise, parce qu'en fait, je fais ce stage dans le cadre de ma dernière année d'études.
Ouais. Et alors, comment est-ce que vous organisez votre temps entre apprendre, livrer dans l'entreprise et pédaler?
Ça dépend des semaines. Là, par exemple, on est sur une semaine où je suis totalement avec mon équipe pour des stages d'entraînement et des compétitions. Donc, je consacre quasiment 100% de mon temps au vélo. Et les semaines où je suis à la maison, c'est des semaines où je vais en entreprise, on va dire environ 20 à 25 heures par semaine. En général, j'y vais une demi-journée et je consacre l'autre demi-journée de la semaine à l'entraînement.
Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. J'imagine que, quand on est cycliste professionnel, il ne faut pas arrêter de pédaler non plus. On peut pas se dire, allez, cette semaine, je bosse chez Ultima où je fais mes études et je ne pédale pas du tout. C'est impossible, ça.
Non, c'est clairement pas possible. Là, je suis arrivée à un niveau où chez les professionnels, on ne peut pas se permettre de s'entraîner moins que les autres. Et ça veut dire au moins une vingtaine, 15 à 20 heures d'entraînement par semaine. Et du coup, c'est tous les jours de la semaine, ou en général, il y a un jour de repos dans la semaine, mais c'est voilà, 6 jours sur 7.
Et quand vous dites 15 à 20 heures d'entraînement par semaine, est-ce que c'est 15 à 20 heures de vélo, ou est-ce que vous, dans votre entraînement, il y a d'autres routines, comme j'en sais rien, courir, ou faire du renforcement musculaire, ou nager, par exemple?
Oui, c'est assez variable. C'est quand même en très très grande majorité du vélo. Moi, j'essaye d'aller courir en général une fois par semaine, mais c'est plus pour mon plaisir personnel, pour diversifier. Il y a un petit peu de renforcement musculaire. Ça, ça dépend des athlètes. Et ouais. Moi, justement, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Ouais.
Mais voilà, je dirais que en ce qui me concerne, c'est une quinzaine d'heures de vélo et quelques extras. Mais qui correspondent jamais à beaucoup plus.
Ouais. Est-ce que, alors la question est un peu compliquée, mais est-ce que c'est possible de performer partout entre le diplôme, le boulot et la vie de cycliste professionnel?
Ah, c'est une bonne question. Bah, c'est vrai que on dit souvent que c'est compliqué de, on peut pas se dédoubler et on peut pas s'investir à 100% dans tout ce qu'on entreprend. Je pense que ce que je fais est pas optimal et je me donne pas à 100% autant dans le travail que dans le vélo.
Ouais.
Mais après, ça m'apporte aussi un équilibre, une ouverture d'esprit qui sont aussi bénéfiques en un sens.
Ouais.
Donc je pense que voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, et des fois c'est plaisant d'avoir autre chose, par exemple autre chose que le vélo, quand ça va un petit peu moins bien à l'entraînement, et ben on retrouve les collègues l'après-midi au travail et on fait complètement autre chose, et des fois pour la tête ça fait du bien aussi.
Ouais, c'est salutaire de changer parfois un peu d'univers.
Oui, complètement. C'est vrai qu'on est beaucoup entre nous, entre cyclistes. C'est un environnement qui est particulier et que j'adore, mais ça a aussi ses avantages de s'ouvrir à d'autres choses et puis à continuer des choses qui me plaisent. En l'occurrence, moi j'aime bien mes études et voilà, j'aime bien ce que je fais en entreprise, donc c'est important pour moi.
Ouais. Et justement, alors on va parler de vos études un tout petit peu, mais est-ce que, quand je vous pose la question juste avant, est-ce que c'est possible de performer partout? J'ai aussi une autre question qui vient, c'est à quel prix? Est-ce que vous avez identifié à quoi vous avez déjà renoncé pour vivre cette vie, j'en sais rien, des sorties avec les copains et les copines, par exemple?
Oui, c'est vrai que l'aspect sortie, on va dire, que ce soit amis ou famille, est souvent l'aspect qui
en pâtit le plus, ouais.
Donc oui, forcément, bah, par exemple, dimanche dernier, pas plus tard qu'hier, j'avais une compétition et du coup, j'ai pas pu aller à l'anniversaire de ma grande tante, enfin de ma tante. Donc forcément, des moments en famille auxquels on peut pas assister. Des fois, c'est le sommeil aussi,
ouais,
qui prend un petit peu. Des fois, je dors un petit peu moins que ce que j'aimerais parce que les journées sont bien remplies et puis que il est rapidement 22-23 heures une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent l'aspect social. Après, je compense aussi en retrouvant mon équipe et en passant des super moments avec mes collègues d'équipe ou en retrouvant mes collègues au travail avec qui je passe des très bons moments aussi. Donc voilà.
Ouais, donc vous y retrouvez. Mais est-ce que vous avez un aménagement de vos études grâce au statut? Vous avez un statut de sportif de haut niveau?
Oui, j'ai un statut de sportif de haut niveau. Alors du coup, là, je ne vais plus à l'école, je ne suis plus en entreprise,
ouais,
dans le cadre de ce stage pendant environ un an.
Ouais.
Mais avant ça, oui, j'avais un aménagement de mes études et par exemple, ma deuxième année d'école d'ingénieur, je l'ai dédoublée en 2 ans.
D'accord.
Donc en fait, au lieu d'aller une trentaine d'heures à l'école par semaine, en fait, j'y allais que 15 heures. J'ai fait la moitié des cours la première année et la moitié l'année d'après, ce qui m'a vraiment permis d'avoir de me dégager du temps pour m'entraîner, par exemple.
Donc ça veut dire que pour aller vite sur le vélo, il faut parfois prendre son temps dans les études.
Oui, c'est un petit peu ça. Et c'est aussi très important pour la santé mentale de garder un petit peu de temps pour soi.
Et j'imagine que votre diplôme, il rentre dans ce qu'on appelle le double projet, le projet professionnel après la vie sportive. C'est quel diplôme que vous passez? C'est un diplôme d'ingénieur mécanique, hein, c'est ça que vous me disiez?
C'est dans les matériaux.
Oui.
Moi j'ai fait l'école d'ingénieur des mines de Nancy. Donc c'est en spécialité matériaux, et voilà, j'ai choisi cette spécialité parce que c'est la spécialité qui me permettait le plus facilement d'avoir des débouchés dans le milieu du sport.
Oui.
Et donc mon projet professionnel, c'était après avoir fait une carrière de sportive, de travailler dans l'ingénierie, par exemple de la conception de matériel sportif.
Ouais, par exemple des vélos.
Typiquement. publiquement du vélo, oui.
Et justement, je tiens moi beaucoup à mentionner Ultima et Jérôme Mortal, et son, Ultima Mobility et Jérôme Mortal, parce qu'en vous embauchant en alternance, bah, il agit concrètement pour vous accompagner. Pareil, l'entreprise, elle est conciliante avec votre emploi du temps ?
Oui, oui, oui. Alors, l'entreprise Ultima Mobility, elle me permet à double titre, en fait, de faire ce que je fais, puisqu'elle est d'une part et de prime abord sponsor de mon équipe.
Oui.
Donc, ma petite entreprise, c'est une équipe qui s'appuie sur un réseau de 4, 5, 600 partenaires PME, dont Ultima Mobility fait partie.
Oui.
Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu le contact de Jérôme. Qui m'a permis d'intégrer l'entreprise. Et du coup, forcément, l'entreprise, elle soutient totalement l'équipe, elle me soutient totalement dans ma carrière, et du coup, elle a aussi envie que je performe sur le vélo, donc elle a aucun problème à être très très flexible pour me permettre de me libérer sur mes périodes de compétition ou de me libérer pour être à l'entraînement. Enfin voilà, j'ai vraiment une grande flexibilité de comment j'organise mes semaines, et ça c'est super appréciable.
Mais ça veut dire aussi que vous, de votre côté, il faut en permanence communiquer et demander en disant bah tiens, la semaine prochaine il y a un stage, tout ça, bien que je vienne pas à l'entreprise. Bref, il faut être en permanence dans l'anticipation, j'imagine.
Oui, bien sûr, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc c'est vrai que j'ai un planning au-dessus de mon bureau, un planning partagé en ligne où je mets à chaque fois mes disponibilités et les périodes où je vais être absente. Donc voilà, l'entreprise arrive à suivre comme ça. Et puis après, c'est vrai que même quand je ne suis pas là, je reste toujours disponible. Enfin, moi, je considère que l'entreprise, elle m'offre vraiment une opportunité incroyable. J'ai beaucoup de chance d'y être. Et du coup, pour lui rendre l'appareil, j'essaye aussi, même si je suis en compétition, même si je ne suis pas disponible, je suis avec mon équipe de vélo, j'essaye de répondre aux mails, de me tenir disponible s'il y a quelque chose que je peux faire à distance. Voilà, donc en fait, je coupe jamais complètement le contact avec l'entreprise.
Ouais. Ouais. Alors justement, c'est ce que vous disiez, vous faites partie d'une équipe qui s'appelle Ma Petite Entreprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse la pause musicale Océane Mahé et qu'on revienne après pour vous nous parler un peu de la structure dans laquelle vous êtes, l'équipe professionnelle dans laquelle vous êtes. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Rayon Libre. Et aujourd'hui, effectivement, au micro, Océane Mahé, entre autres, cycliste professionnelle. Elle court sous les couleurs de l'équipe qui s'appelle Ma Petite Entreprise, une initiative un peu à part dans le paysage. On évoque ce sujet après. Et bien évidemment, Bachung, Ma Petite Entreprise, évidemment. On se retrouve dans 3 minutes.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanoui et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Jardin d'expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse. Que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui
fait que je souque, fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ses lèvres, qu'importe l'amour importe, qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, qu'importe, quand je vois se poindre les pyramides, nez, mes lubies. Là, je coule à mes oreilles, ma petite entreprise. Connais pas la crise, épanoui et l'exhibe des trésors satinés.
Et nous voilà, nous sommes de retour, c'est Rayon Libre, c'était Alain Bachung, Ma Petite Entreprise, c'est effectivement un titre de chanson, c'est aussi le nom de votre équipe Océane Maé. Racontez-nous, comment fonctionne donc cette équipe?
Alors Ma Petite Entreprise, c'est une équipe cycliste professionnelle, donc qui évolue au niveau pro-team dans le cyclisme féminin,
ouais.
et qui repose sur un modèle de sponsoring un petit peu différent de ce qu'on peut connaître. Au lieu d'avoir un, deux, voire trois partenaires titres qui vont constituer la majorité du budget de, créer la majorité du budget de l'équipe, on a en fait plein de petites entreprises, donc d'où le nom, donc qui sont plutôt des PME, voire des TPE,
oui.
qui vont donner à la hauteur de leurs moyens pour s'investir dans le projet de l'équipe et financer comme ça l'équipe sur la saison.
Et donc pour bien comprendre aujourd'hui, donc c'est une équipe féminine pour commencer, pour avoir un peu une idée, c'est combien de personnes qui gravitent ou qui sont dans cette petite entreprise en comptant les coureuses?
Alors au niveau des coureurs, nous on est 10 filles.
Oui.
Et après en fait il y a énormément de personnel du staff. On a seulement deux staffs qui sont salariés, donc qui sont là tout le temps.
À plein temps, oui.
Donc c'est le directeur sportif et le mécanicien.
Ouais.
Et après, en fait, c'est très difficile de dire. On a six dirigeants, donc qu'on appelle un petit peu les lanceurs, c'est les six personnes qui ont lancé le projet,
ouais.
Qui eux travaillent du coup bénévolement hein, sur le projet. Et puis ensuite, on a des personnes qui vont plutôt travailler, on va dire, plus ponctuellement sur les compétitions ou sur les stages, donc ça va être des assistants, des entraîneurs, des fois d'autres mécanos pour venir en renfort, etc.
D'accord, donc ça veut dire qu'en gros c'est un modèle qui est finalement très participatif, c'est une sorte de Ulule de la course de l'équipe vélo. Chacun contribue comme il peut et avec ce qu'il a.
Oui, c'est un petit peu ça. On repose déjà sur des partenaires qui contribuent à la hauteur de leurs moyens,
ouais.
Et aussi sur du personnel qui s'investit aussi par passion. Je pense par exemple à notre corps médical, le médecin, kiné, etc., qui sont aussi là par passion et par envie de vivre ces aventures à nos côtés.
D'accord. Et alors pour bien comprendre, à quel niveau vous, les 10 filles, vous courez?
Alors nous, on fait des compétitions de niveau professionnel international, donc on fait des courses de niveau World Tour, donc ça va être l'échelon le plus relevé, donc font partie des courses comme le Tour de France ou Paris-Roubaix par exemple,
ouais.
Et puis on fait des courses d'échelon qui restent professionnels mais un petit peu inférieurs, donc ce qu'on appelle les classes 1 et les classes 2. Qui là regroupe aussi d'autres équipes professionnelles,
ouais.
Mais sans forcément gagner toutes les meilleures professionnelles mondiales.
Ouais, donc le World Tour, ça me semble assez clair. J'imagine que nos auditeurs et nos auditrices, ils ont tous entendu et toutes entendu parler de ce qui s'appelle le Tour de France. Je le disais en intro, vous venez de gagner une première course labellisée UCI. Pour nos auditeurs, par contre, qui ne se rendent pas forcément compte, et même moi d'ailleurs, c'est quel niveau? C'est quoi? C'est un niveau Tour de France, une course UCI?
Alors non, du coup, une course UCI, ça veut simplement dire que c'est une course professionnelle qui est donc organisée par l'Union Cycliste Internationale,
oui.
UCI. Et comme je le disais, il y a plusieurs classes de courses. Et moi, la course que je viens de remporter, c'est une classe 2. Donc on peut dire que c'est le niveau le plus bas du niveau professionnel.
Oui.
Alors dit comme ça, c'est pas forcément hyper positif. Ça reste une course pro, mais c'est vrai que... C'est pas ce que j'ai remporté, c'est pas du tout une épreuve sur laquelle il y avait le niveau comme au Tour de France.
Oui, c'est pas le Paris-Roubaix, mais c'est, on va dire que c'est l'accès site au haut niveau et aux courses professionnelles.
Exactement.
Et alors pour moi, hein, qui ne me rend pas bien compte, parce que je suis jamais monté sur un podium à vélo, la victoire sur une course cycliste, ça a quel goût, Océane ?
Ouais, c'est un moment assez incroyable. C'est vrai que ça faisait 2 ans que j'avais pas remporté de course, et c'est vraiment un sentiment qui est incroyable quand on aime le sport, de pouvoir lever les bras. On a vraiment cette adrénaline en nous. On a un énorme sourire pendant 3 jours après. Ouais. Et puis en plus quand on peut le partager avec l'équipe, c'est génial. Moi, on était 5 à prendre le départ de cette course. Mes coéquipières, elles ont fait vraiment un super travail en amont pour que je puisse aller remporter cette course. Et du coup, on a pu partager ça tous ensemble, partager ça avec les membres du staff, ouvrir une bouteille le soir. Enfin voilà, on vit vraiment des super émotions dans ces moments-là.
Et après, c'est ce dont on a du mal à se rendre compte, c'est ce que vous venez de dire. Ça faisait 2 ans que vous n'aviez pas gagné de course. Gagner une course à vélo, c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui.
Ah bah oui, forcément. C'est vrai que moi, avant, par exemple, je faisais du tennis. Et le tennis, on est 2 sur le terrain et on gagne 1 fois sur 2, hein,
oui.
À peu près, hein,
ouais.
Du point de vue statistique. Le vélo, en général, on est rarement moins de 100 au départ. Et des fois, c'est même plutôt 120, 130, voire 150.
Ouais.
Du coup, il n'y a qu'une seule de ces filles-là qui va gagner. Donc en fait, la victoire sur une course cycliste, elle est quand même vraiment rare. Et quand on a la chance que ça arrive... Et c'est vraiment un moment particulier. Il y a même plein de coureurs qui font des très belles carrières sans jamais remporter le
tour. Oui, et je crois que c'est d'ailleurs Tadej Pogačar qui disait « Mais aujourd'hui, je gagne beaucoup de courses, mais dans ma vie, j'ai pas gagné plus de courses que je n'en ai perdu, au fait. »
Oui, oui, oui. Et en plus, lui, c'est vraiment pas un bon exemple parce que pourtant, il en a gagné un nombre vraiment super important. Mais c'est vrai que quand on prend le départ, on se dit que c'est fort probable qu'on ne gagne pas.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça fait aussi que par rapport à d'autres sports, on peut être très satisfait d'une performance qui n'est pas une victoire. On va sur certaines courses et des fois, on va chercher un top 10. Et ce top 10, il est extrêmement satisfaisant, on est très heureux et pourtant on n'a pas gagné.
Oui, parce que vous savez, vous connaissez la valeur du tableau et la valeur des concurrentes en face de vous et comment la course a été difficile ou pas en fonction du parcours. Océane, vous me disiez juste avant qu'avant vous faisiez du tennis. Comment est-ce que vous êtes arrivée au cyclisme professionnel ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai fait du tennis pendant très longtemps, depuis que j'avais 4 ans jusqu'à mes... 17-18 ans, et en fait, je me suis blessée, enfin, j'avais une blessure chronique au niveau de l'épaule qui m'empêchait de servir,
oui.
Donc c'était un petit peu compliqué parce que ça a vraiment freiné la progression, et étant une grande compétitrice, c'était très frustrant pour moi de pas pouvoir m'exprimer, on va dire, à 100%,
oui.
Et du coup, je me suis mis au vélo, en fait, c'était la passion de mon père, lui, il en a fait quand il était jeune, du vélo de route. Moi, je me suis mis d'abord un petit peu avec le VTT et puis rapidement, j'ai voulu avoir un vélo de route. Je me plaisais plus sur la route et donc je l'ai accompagné pour tout d'abord des sorties le dimanche matin et puis de fil en aiguille, l'esprit un petit peu de compétition que j'ai et d'envie de me dépasser a fait que j'ai voulu m'inscrire sur des compétitions et voilà, en quelques années... J'ai bien progressé et j'en suis là aujourd'hui.
Donc le vélo, c'est d'abord, enfin suite à un problème physique sur le tennis. Le tennis, vous en faisiez en compétition ?
Oui, j'en faisais en compétition, mais alors un niveau très très modeste. C'était vraiment par plaisir ouais. Avant tout. J'ai jamais eu la prétention de devenir professionnel en tennis.
Mais quand même, à quel moment ? Parce que et après c'est ce que vous me dites, il y a une sorte de transmission avec votre père qui pédalait sur la route et qui vous a emmené. Mais à quel moment vous vous dites, mais il y a un déclic qui dit, bah en fait j'ai les qualités athlétiques pour tenter de devenir cycliste professionnel. C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui se passe ?
Le moment vraiment où je me dis que le professionnalisme est envisageable, c'est en 2023, donc c'est relativement récent. C'est une année que je fais dans l'ADN, donc la division nationale amateur de 3,
oui.
Où là je commence à avoir des résultats sur des épreuves de niveau national, donc des Coupes de France, sur un championnat de France à espoir que je remporte. Où là je me dis, ah bah là peut-être que être professionnel c'est envisageable. Avant ça, les années d'avant, c'était quand même plutôt globalement de la découverte et je montrais des capacités qui étaient relativement limitées. Et d'ailleurs, c'est un petit peu une blague avec mon papa aujourd'hui, c'est que il me dit souvent, quand je t'ai vu sur ta première course, je me suis dit, elle va pas faire long dans le vélo. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'en ai fait mon métier, donc c'est C'est marrant et ça montre bien qu'il faut, il faut pas désespérer et surtout pas se fier à quelques premières compétitions qu'on peut mal se passer.
Bien vu le coach. On est dans Rayon, dans Rayon Libre, c'est, on est à peu près à la 25e minute, il y a un rendez-vous qui est immuable, c'est Abel Guggenheim dans Rayon Libre. Nous aussi, hein, chez Rayon Libre, c'est une petite entreprise. Sa mission, c'est de tenter de comprendre les cyclistes, la place du vélo dans nos sociétés. Abel, je te propose d'y aller avec ta chronique, on t'écoute.
Cause commune, la voie des possibles.
Bonjour. Il y a deux semaines, je vous parlais de ce qu'on appelle généralement aujourd'hui le vélo bashing ou la haine anticycliste, en vous faisant observer que sous le terme de cyclistophobie, j'en parle depuis longtemps, et en particulier lorsqu'en 2020, tout le petit monde du vélo se réjouissait de l'envolée du vélo, enfin reconnu comme mode de déplacement, sans remarquer les effets négatifs en termes d'image que cette envolée produisait. Quand on observe avec attention un sujet comme je le fais depuis longtemps, on développe une certaine faculté à distinguer les éléments d'une évolution en cours et à venir, et on peut se laisser aller un peu de triomphalisme dans la catégorie « j'ai été le meilleur en parlant avant tout le monde de ce que les autres ne voyaient pas ». Mais ce n'est pas toujours le cas, et on peut aussi faire des erreurs d'appréciation et même parfois se tromper complètement. Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est ce qui m'est arrivé pour le sujet que je traitais la semaine dernière, les vélos partagés. On le sait aujourd'hui, J.C. Decaux avait proposé le concept des vélos en libre service au maire de Paris, Bertrand Delanoë, puis après son refus, il avait proposé à celui de Lyon, qui avait mis en service en 2005 le Vélove. S'apercevant du formidable succès de Vélove, Delanoë reprit le même projet, ce qui aboutit en 2007 à la mise en service à une grande échelle de Vélib, avec le succès que l'on sait. Mais pourquoi Bertrand Delanoë avait-il refusé de mettre en place ce système de vélo en libre-service? Tout simplement, alors que l'idée lui plaisait bien, parce qu'il avait demandé leur avis à son adjoint au transport, Denis Baupin, à son directeur de la voirie, Daniel Laguet, qui lui avait tous deux dit que ça ne marcherait pas. Eh bien, pour en revenir à ce que je disais, s'il m'avait demandé mon avis, j'aurais certainement dit la même chose. En précisant, on ne demande pas à la ville de nous fournir des vélos, mais de mettre à notre disposition des aménagements sur lesquels nous pourrons rouler avec nos vélos. Après avoir pensé que ça ne marcherait pas et constaté que ça marchait, j'ai pensé que ça serait provisoire, que finalement ça permettrait aux gens d'essayer le vélo, d'y prendre goût et d'ensuite acheter leur propre vélo. Ça a été effectivement le cas de nombreuses personnes, mais d'autres sont restés exclusivement vélibistes, ce que je ne comprenais pas, et pour être honnête jusqu'au bout, j'ai encore un peu de mal à le comprendre aujourd'hui. Mais pourquoi me suis-je trompé? Sans doute simplement parce que, comme je l'expliquais la semaine dernière, je trouve illogique de partager des vélos alors que majoritairement on ne partage que rarement les voitures, mais surtout sans doute, comme souvent beaucoup d'entre nous, j'ai imaginé les besoins et habitudes des autres en fonction des miens et des miennes. À lundi prochain.
Cause commune, la voie des possibles.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Océane Maé, j'ai une dernière question pour vous. C'est quoi votre programme cet été? Vous le connaissez déjà?
Non, je ne connais pas encore mon programme dans sa globalité. Je sais que l'équipe va aller faire un stage montagne, passer 3 semaines en altitude du côté de Puy-Saint-Vincent.
Oui.
Pour préparer les échéances de l'été, mais là toute l'équipe sera présente. Et puis ensuite, début août, il y aura le Tour de France, donc on n'a pas encore la sélection. Forcément, moi j'ai vraiment envie d'y être et cet objectif-là depuis le début de la saison, donc j'espère vraiment y être. Et puis ensuite, il y aura la fin du mois d'août qui sera un petit peu plus calme, on va dire, avant de repartir sur les dernières échéances de la saison au mois de septembre.
Et puis après, préparer les classiques, j'imagine.
Oui, c'est ça. Après, la fin de saison, c'est des courses un petit peu différentes et on n'a pas encore une vision très précise sur notre programme de course. Et ensuite, on aura déjà les yeux rivés sur 2027.
Eh bien, merci beaucoup. C'était Océane Maé, étudiante en école d'ingénieur, alternante chez Optima, ou stagiaire plutôt même chez Optima Mobility, coureuse pro chez ma petite entreprise. Auditeur, auditrice, ça y est, ce Rayon Libre est terminé. Restez bien sur 93.1 FM, sur Cause Commune, il doit être 14h30. N'oubliez pas, le vélo est une chance et ce serait dommage de ne pas l'enfourcher, même si parfois, comme Océane, il faut savoir renoncer à d'autres choses. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.